Vous écoutez On lit pour vous.
Des enfants sous le radar de la santé mentale. Un texte d'Emmanuel Jasmin paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir. La santé mentale des jeunes, en tant qu'enjeu social préoccupant, devrait être au cœur de nos priorités collectives. Considérant la hausse des diagnostics, il est d'autant plus nécessaire d'agir en prévention, surtout auprès des plus vulnérables. C'est notamment le cas des enfants ayant un trouble développemental de la coordination, TDC, plus susceptibles que leurs pairs qui ont un développement typique de présenter un problème de santé mentale. Le TDC, aussi appelé dyspraxie, est une condition neurodéveloppementale qui se manifeste dans la vie de tous les jours par des difficultés avec l'apprentissage et l'exécution de mouvements. Les enfants présentant un TDC ont du mal à acquérir, malgré la pratique, certaines habiletés motrices, comme boutonner un chandail, attraper un ballon ou former des lettres. En raison de leurs difficultés motrices, plusieurs de ces enfants vivent souvent de la frustration, de l'embarras, de l'anxiété, un manque d'estime de soi ou de l'isolement social, ce qui peut affecter leur santé mentale. Alors que le TDC touche environ 5 à 6 % des enfants d'âge scolaire, ce trouble serait l'un des moins bien compris et reconnus en santé et en éducation. Ainsi, déjà, en s'informant sur le TDC, on contribue à améliorer la compréhension de la réalité de ces enfants. Cela aide à établir des attentes réalistes et à faire preuve de patience, de sensibilité et de bienveillance, ce qui favorise leur bien-être et leur estime de soi. D'ailleurs, la sensibilisation au sujet du TDC constitue un outil puissant pour promouvoir la santé mentale des personnes vivant avec ce trouble. Cultiver la joie, l'estime de soi et l'amitié. Comme mentionné précédemment, éprouver des émotions négatives, comme de la frustration, est courant chez plusieurs enfants présentant un TDC. En plus de travailler sur l'accueil des émotions, on gagne à accroître chez ces jeunes les expériences qui leur procurent de la joie afin de susciter leur motivation, leur engagement et leur bien-être psychologique. Il faut savoir que certains jeux peuvent ne pas les amuser en raison des efforts supplémentaires que cela leur demande. Au lieu de tenir pour acquis ce qui plaît aux enfants, mieux vaut se montrer à l'écoute de leurs réactions, de leurs préférences et de leurs intérêts. Les enfants ayant un TDC présentent souvent une faible estime de soi. En les aidant à se sentir compétents et autonomes, on renforce leur estime, un facteur de protection en santé mentale, tout en répondant à leurs besoins psychologiques. Des interventions probantes, comme l'approche Co-op, utilisées en ergothérapie, permettent d'agir en ce sens. En effet, cette intervention développe la compétence et l'autonomie à travers la résolution de problèmes et l'acquisition d'habiletés et de stratégies. L'entourage peut aussi soutenir la compétence et l'autonomie de ces enfants, entre autres en les amenant à trouver leurs propres solutions. Puisque l'isolement social est une réalité souvent vécue chez les enfants présentant un TDC, une attention spéciale devrait être portée à leurs liens d'amitié. En plus de répondre à leurs besoins d'appartenance, il s'agit d'un autre facteur de protection en santé mentale. C'est encore plus important en cas d'intimidation, ce à quoi sont davantage exposés les enfants présentant un TDC. De plus, la qualité des liens d'amitié peut prévenir ou réduire les symptômes d'anxiété ou de dépression chez ces enfants. Proposer des activités en petits groupes, dans un climat bienveillant et coopératif, peut également faciliter la création de liens amicaux. Promouvoir l'équilibre de vie. Les enfants ayant un TDC sont aussi plus susceptibles que leurs pairs d'adopter un mode de vie sédentaire et de faire un usage excessif des écrans durant leur temps libre. Il peut donc être requis de s'attarder à leur équilibre de vie pour préserver leur santé mentale. Les bienfaits de l'activité physique sont maintenant bien reconnus. Cependant, les enfants ayant un TDC font en général moins d'activité physique que leur père, ce qui peut affecter leur estime de soi et les isoler socialement. Étant donné leurs difficultés motrices, il est recommandé de les orienter vers des activités physiques peu ou pas compétitives, qui peuvent se pratiquer pour le plaisir, sans pression de performance. La natation, le vélo, le patin, le ski, l'escalade et la danse en sont des exemples. En éducation physique, on suggère de réduire la pression liée à l'évaluation, de proposer des défis atteignables, d'accorder plus de temps pour l'apprentissage, d'accueillir les émotions négatives, d'offrir des moyens soutenant la participation et la réussite, et de témoigner du respect et de l'appréciation. Chez les enfants présentant un TDC, il est fréquent que leurs habitudes de sommeil soient perturbées. Puisque les problèmes de sommeil peuvent être une cause et une conséquence des problèmes de santé mentale, n'oublions pas d'y porter attention. Si l'activité physique peut aider à améliorer le sommeil, d'autres interventions ou traitements peuvent être requis. Le cas échéant, il ne faut pas hésiter à consulter. Enfin, ces pistes d'action pourraient certainement bénéficier à d'autres enfants, avec ou sans conditions particulières. Puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, évitons de laisser des enfants passer sous le radar et agissons, dès maintenant, pour favoriser leur mieux-être au quotidien. C'était « Des enfants sous le radar de la santé mentale », un texte d'Emmanuel Jasmin paru le 4 décembre 2024 dans Le Devoir.
Les succès futurs d'Équipe Canada passent par un investissement dans le sport. Un texte de David Shoemaker et Karen O'Neill paru le 4 décembre 2024 dans la presse. Cette semaine, 200 athlètes d'Équipe Canada sont accueillis sur la colline du Parlement afin de célébrer leurs exploits des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Pour plusieurs de ces athlètes, cette expérience à Ottawa restera un souvenir impérissable, qu'ils aient quitté Paris avec une médaille ou non. Nous espérons qu'il s'agit aussi d'un moment mémorable pour les parlementaires. À l'approche du budget 2025, ces derniers ont une occasion importante d'investir davantage dans le sport canadien. À l'heure actuelle, les organismes nationaux de sport, ONS, fonctionnent selon les niveaux de financement de 2005 et les budgets ont été rongés par l'inflation. Plusieurs d'entre eux affichent des déficits insoutenables. C'est pourquoi le Comité olympique canadien, COC, et le Comité paralympique canadien, CPC, demande au gouvernement fédéral d'augmenter son investissement dans les ONS de 144 millions de dollars par année à partir de 2025. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont été magiques. Aux Jeux olympiques, Équipe Canada a remporté 27 médailles, soit le deuxième plus grand nombre de médailles jamais remportées à des Jeux d'été. Plus important encore, 7 Canadiens sur 10, soit quelque 27 millions de personnes à travers le pays, ont suivi les Jeux sur les ondes de CBC et de Radio-Canada. Aux Jeux paralympiques de Paris, le Canada a remporté un nombre impressionnant de 29 médailles. La couverture des Jeux paralympiques par CBC et Radio-Canada a atteint de nouveaux sommets, notamment avec une augmentation de 153% de l'auditoire sur les plateformes numériques par rapport à ceux des Jeux de Tokyo 2020. Combien de jeunes ont fait des roues dans leur salon après avoir été éblouis par la routine d'Eli Black à la poutre? Combien de personnes ont applaudi l'équipe féminine de volley-ball assis qui a remporté une médaille de bronze historique et ont été incitées à pratiquer un sport pour elles-mêmes? Combien d'enfants ont regardé Summer McIntosh remporter 3 médailles d'or à la nage pour ensuite dire à leurs parents, à leurs professeurs ou à leurs meilleurs amis qu'ils voulaient être aussi rapides qu'elles dans l'eau? Un système en péril. Avec un système sportif adéquatement financé, tous ces athlètes en devenir seraient encouragés à s'inscrire auprès de leur club local qui serait affilié à un organisme provincial ou national de sport. Ces organismes seraient à leur tour en mesure d'accueillir ces athlètes dans des environnements sécuritaires et inclusifs en effectuant le suivi des nouvelles adhésions et en fournissant le soutien et les services dont les athlètes ont besoin. Le système sportif canadien n'est toutefois pas équipé pour ces tâches essentielles. Si les organismes nationaux de sport sont en difficulté, c'est tout le système sportif qui est en péril. Ce sera sans doute l'une des conclusions de la Commission sur l'avenir du sport au Canada, qui étudie actuellement les moyens d'améliorer le système sportif du Canada. Déjà, plus de 80 % des ONS déclarent qu'ils ne comptent pas participer à certaines compétitions internationales en raison de contraintes financières. Plus de 70 % des ONS ont réduit ou aboli des programmes et près de 90 % ont commencé à restreindre les camps d'entraînement. Cela entraîne aussi une capacité réduite pour les sports d'identifier et de préparer le talent adéquatement, avec moins d'accès au soutien essentiel à l'entraînement nécessaire pour optimiser le potentiel des athlètes et représenter le Canada sur la scène internationale. Pire encore, les ONS doivent augmenter les cotisations des athlètes et des programmes à tous les niveaux pour contribuer au maintien des activités. De cette façon, nous perdons du terrain face aux autres pays. Cet automne, l'Allemagne a adopté une loi de financement du sport chiffrée à plus de 300 millions d'euros. Pour le sport élite, plus de 440 millions en dollars canadiens. La semaine dernière, c'est l'Australie qui a annoncé un investissement de 385 millions de dollars australiens, près de 350 millions de dollars canadiens, sur les 18 prochains mois pour financer les Olympiens et les Paralympiens en route vers les Jeux de Los Angeles en 2028 et ceux de Brisbane en 2032. Si 144 millions de dollars semblent énormes, il s'agit d'un investissement modeste en comparaison avec d'autres récentes promesses du gouvernement, qu'il s'agisse d'usines de véhicules électriques, de subventions d'aide au logement ou de congés de TPS. Cela est particulièrement vrai, tenant compte des avantages découlant d'un investissement dans le sport, dont plusieurs qui contribuent à alléger d'autres priorités du gouvernement. Le sport motive les Canadiens à être actifs et favorise le mieux-être physique et mental, permettant ainsi d'économiser des milliards de dollars en frais de soins de santé. Il offre aux jeunes la possibilité d'acquérir les habiletés fondamentales qui se développent grâce au dévouement, à la résilience et au travail d'équipe. Enfin, le sport suscite la fierté de notre pays et de nos communautés. Les athlètes olympiques et paralympiques du Canada représentent l'apogée de la réussite sportive. En ce sens, leurs parcours sont uniques. Leur histoire est toutefois similaire à celle de millions d'autres personnes à travers le pays. Chacune de ces histoires a débuté avec une personne curieuse qui s'est inscrite à un sport à travers lequel elle a découvert la réussite, la motivation, l'intention et une communauté présente tout au long de son parcours. Cela ne tient même pas compte des aptitudes de vie acquises à travers le sport qui accompagnent les personnes, peu importe le parcours qu'elles empruntent. Un système sous-financé n'offrira jamais aux Canadiens un système aussi sécuritaire et inclusif qu'ils le méritent. Il ne permettra pas non plus de développer la prochaine génération de grands athlètes dont Équipe Canada a besoin pour continuer à briller comme elle l'a fait aux Jeux de Paris 2024. Alors qu'Équipe Canada est honorée au Parlement, nous avons besoin que les parlementaires investissent dans le sport et dans le système qui a contribué à leur succès. C'était Les succès futurs d'Équipe Canada passent par un investissement dans le sport, un texte de David Shoemaker et Karen O'Neill, paru le 4 décembre 2024 dans La Presse.
dur, dur d'être un aîné. Un texte de Stéphanie Gramont, paru le 4 décembre 2024 dans La Presse. Les retraités qui sont privés du chèque cadeau de 250 $ promis par Justin Trudeau, les personnes de 65 à 74 ans qui n'ont pas droit à la majoration de 10 % de leur rente par Ottawa. Décidément, le sort financier des aînés enflamme les partis de l'opposition au Parlement cet automne. Pour peu, on entendrait le chef du Bloc québécois entonner « dur, dur d'être un aîné » en s'inspirant du succès du Petit Jordi de 1992. Au lieu de crier à l'injustice et de réclamer des mesures à la pièce, il serait temps d'avoir une discussion en profondeur sur la pension de la sécurité de la vieillesse, PSV. Il faudrait une cure de jouvence pour freiner la mort lente de la PSV, qui est programmée depuis le tout début sans qu'on y prête trop attention. Lundi, la vérificatrice générale du Canada a sonné l'alarme en dénonçant l'absence d'analyse solide permettant de, citation, « s'assurer que les programmes pour les personnes âgées répondent bel et bien à leurs besoins sociaux et économiques ». Fin de citation. Le constat est dur, et il est d'autant plus inquiétant que la PSV est la plus importante dépense du gouvernement fédéral. Les montants en jeu sont énormes. Ottawa a versé 61 milliards de PSV en 2020 à 7,5 millions de Canadiens. Et les coûts pourraient tripler d'ici 2045 avec le vieillissement de la population et l'inflation. Il n'est pas normal qu'un tel programme soit sur le pilote automatique depuis plus de 70 ans, sans qu'on se demande s'il fait bien son travail. Le montant de la rente est établi de façon très bancale. Le ministère prend le montant fixé lors de la création de la PSV en 1959, 40 $ par mois, et l'ajuste à l'inflation, 459 $ en dollars de 2024. Au fil des ans, il a aussi procédé à des hausses ponctuelles, au gré des commandes politiques, si bien que le montant mensuel maximum est aujourd'hui de 718 $ par mois. Il atteint 790 $ pour les personnes âgées de 75 ans et plus depuis la majoration accordée à ce groupe d'âge en 2022. Cette hausse différenciée se justifiait car les aînés de 75 ans et plus ont des revenus médians après impôts nettement plus faibles, 28 200 $, que ceux de 64 à 74 ans, 33 600 $. Mais en créant deux catégories d'aînés, les libéraux ont fait bien des mécontents chez les « jeunes aînés » qui réclament le même traitement. Or, cela coûterait très cher, 3 milliards de $ par année, selon les calculs du directeur parlementaire du budget. Si le fédéral veut aider les aînés qui en arrachent le plus, il pourrait réduire la rente des mieux nantis et bonifier le supplément de revenus garanti, SRG, que touchent les plus démunis. Cela éviterait d'augmenter la facture alors qu'Ottawa est dans le rouge. Cela serait aussi plus équitable pour le reste de la population, considérant que le taux de pauvreté est presque deux fois plus élevé chez les 18-65 ans, 11,1%, que chez les aînés, 6%. Mais ce n'est pas tout. Il faudrait s'attaquer à un vice de construction majeur de la PSV que le rapport d'Amour, paru au Québec, avait déjà identifié en 2013. Voici l'enjeu. Au fil des décennies, le rôle du régime fédéral diminue progressivement parce que le système est indexé en fonction de l'inflation et non de la croissance des salaires, qui est plus rapide. Le pouvoir d'achat des prestataires actuels est protégé, mais les plus jeunes n'ont pas droit au même filet social que leurs aînés. Le filet a été conçu comme ça. Ses mailles s'élargissent chaque année. En 2012, par exemple, une personne de 65 ans avec un salaire de 40 000 $ pouvait s'attendre à ce que les rentes fédérales remplacent 26 % de ses revenus d'emploi. En 2052, le taux de remplacement ne sera plus que 13 % pour un nouveau prestataire dans la même situation. Bref, plus le temps passe, plus la PSV rétrécit par rapport aux revenus d'emploi, plus la marche est haute pour une personne qui arrive à la retraite, plus elle doit épargner par ses propres moyens pour maintenir son niveau de vie à la retraite. On pourrait s'inspirer du régime des rentes du Québec, RRQ, qui n'a pas ce défaut. Le régime permet de remplacer 25 % des revenus d'emploi. Et ça ne change pas dans le temps. Et le deuxième volet du RRQ, entré en vigueur en 2019, donnera un coup de main supplémentaire. Mais le défi reste grand pour les travailleurs d'aujourd'hui, notamment ceux de la classe moyenne. Cela explique que le Canada perde des points dans l'indice Mercer, qui mesure la qualité des systèmes de retraite de nombreux pays. Au lieu de s'obstiner sur un chèque cadeau bassement électoraliste de 250 $ qui mérite de passer complètement à la trappe, nos élus devraient réfléchir au mécanisme de la PSV. Sinon, plus ça ira, plus ça sera dur d'être un aîné. C'était « Dur, dur d'être un aîné », un texte de Stéphanie Gramont, paru le 4 décembre 2024 dans La Presse.
Les femmes toujours en butte à la discrimination dans les emplois traditionnellement masculins, affirme une chercheuse. Un texte de Dominique Plante paru le 30 novembre 2024 dans TVA Nouvelles. En plus de subir l'iniquité salariale, les femmes qui occupent un emploi considéré comme masculin sont toujours en butte à la discrimination lorsqu'elles tentent de monter les échelons, a révélé une chercheuse de l'IRIS. Il y a encore certains emplois qui sont traditionnellement considérés comme masculins où les femmes vont avoir de la difficulté à faire leur place, a expliqué Anne Plourde, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, en entrevue à LCN récemment. Ce sont des emplois qui sont davantage valorisés et qui sont mieux payés, a-t-elle ajouté. Il n'est pas toujours évident non plus d'atteindre le sommet de la hiérarchie. À peine 35% des fonctions de cadre supérieur dans la province sont occupées par des femmes. Madame Plourde précise toutefois qu'il y a une augmentation des femmes dans ces types de postes. L'écart salarial. Anne Plourde est d'ailleurs l'une des chercheuses qui ont effectué des calculs prouvant que les femmes québécoises travaillent gratuitement depuis vendredi dernier à cause de l'écart salarial, malgré la mise en place de la loi sur l'équité salariale en 1996. Selon un calcul de la rémunération horaire, les femmes empochent en moyenne 9% de moins que les hommes pour chaque heure payée. Cet écart augmente à 22% si l'on se fie aux estimations pour le salaire annuel. Les femmes gagnent seulement 78% de la rémunération annuelle des hommes, a indiqué Mme Plourde. Et ça, c'est vrai dans à peu près toutes les catégories qu'on regarde. Comment limiter la discrimination? L'experte évoque toutefois des stratégies qui peuvent être mises en place pour réduire cette inégalité. D'abord, les syndicats contribueraient à diminuer les injustices. Ce qu'on constate, c'est que dans les milieux syndiqués, on atteint une quasi-égalité salariale, a-t-elle affirmé. Dans les endroits non syndiqués, l'écart de rémunération est beaucoup plus grand. Anne Plourde aborde aussi les avantages sociaux, comme l'accès aux services de garde et le régime parental pour celles qui ont des enfants. L'experte ajoute que la prise en charge des tâches domestiques nuit à leur carrière. Les femmes vont effectuer une heure de plus que les hommes par jour de tâches domestiques, ellipse. Donc, ça va les ralentir dans leurs possibilités et dans leur avancement de carrière, a-t-elle déclaré. Si la tendance se maintient, les femmes subiront l'écart salarial pour encore au moins 25 ans, selon Anne Plourde. C'est très long, a-t-elle souligné. C'était « Les femmes toujours en butte à la discrimination dans les emplois traditionnellement masculins », affirme une chercheuse. Un texte de Dominique Plante paru le 30 novembre 2024 dans TVA Nouvelles.
Là, pour toi. Lorsque l'amour d'une sœur peut faire une différence. Un texte de Mélanie Calvé, paru le 2 décembre 2024 dans Viva Média. Originaire de Rigaud, l'humoriste Fania Séguin présentera le 2 avril prochain la soirée « Là pour toi » au cabaret Lion d'Or au profit de la Fondation Véro et Louis. Sœur d'un jeune homme vivant avec un trouble de l'autisme, Fania souhaite être sa voix. Elle souhaite sensibiliser les autres sur la réalité de son frère, de sa famille et de toutes celles qui composent avec les enjeux reliés à l'autisme. Cette soirée se veut une levée de fonds afin d'aider des familles comme la sienne à trouver un toit à un des leurs. Une liste d'invités des plus intéressantes. Fania déborde d'énergie et d'optimisme. Elle est dans l'action et souhaite se servir de sa passion pour l'humour pour faire avancer les choses. Pour l'occasion, elle a sollicité ses pairs humoristes qui ont accepté de participer à l'événement. En effet, parmi les invités, notons la présence de Mona de Grenoble, Michel Desrochers, Gary Hanna, Jean-Louis et Alexandre Bisaillon. La soirée s'annonce unique en son genre. En effet, Fania multiplie les initiatives pour en faire un événement dont tous se souviendront. En amont, le processus fera l'objet d'un documentaire qui sera présenté en avant-première aux convives avant d'être disponible sur les réseaux sociaux. L'humoriste s'est entouré d'une animatrice 3D et d'un ami pianiste qui bonifieront le moment d'une touche unique et chaleureuse. Le projet de Fania est colossal et la jeune humoriste met tout en œuvre pour que cela soit à la hauteur de l'amour qu'elle éprouve pour son frère et pour représenter la cause qui lui tient à cœur. Chose certaine, durant cette soirée, le rire, l'art et l'amour seront au rendez-vous. La voix de son frère. La cause de l'autisme. Fania l'endosse et l'embrasse depuis toujours. Cadette d'une famille de 3 enfants, déjà à 7 ans, elle affirmait haut et fort qu'un jour, elle s'occuperait de son frère. D'ailleurs, à ses 18 ans, elle s'est empressée de signer les papiers la nommant tutrice de ce dernier. Fania a grandi en utilisant des pictogrammes pour communiquer avec son frère. Elle a grandi en comprenant les défis que rencontraient les familles comme la sienne. Elle a rapidement compris que son frère aurait toujours besoin de quelqu'un près de lui, que se trouver son propre toit ne serait pas chose facile. Elle a fait du bonheur de son frère sa mission de vie et voilà pourquoi elle n'épargne aucun effort pour contribuer à la cause. La soirée, là pour toi, est le reflet de ce lien indélébile qui l'unit à son frère. Ceux qui le souhaitent peuvent se procurer des billets et participer à cette soirée qui vous surprendra et vous touchera l'âme. C'était « Là pour toi », Lorsque l'amour d'une sœur peut faire une différence, un texte de Mélanie Calvé paru le 2 décembre 2024 dans Viva Média.